7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Mickaël, sujet dur, poignant, on parle ce soir de ce que Daesh appelle les lionceaux du califat.
Expression forgée par les dirigeants du groupe État islamique et reprise aujourd'hui par presque tous ses lieutenants. Lionceaux, vous l'avez compris, désigne des enfants, ils ont 7, 10 ou 12 ans, des enfants qui dans la plupart des cas ont été arrachés à leur famille pour suivre un entraînement militaire d'une violence inouïe en Irak ou en Syrie, car ces lionceaux du califat sont censés devenir la nouvelle génération de djihadistes. Bonsoir Alice Serrano.
Bonsoir.
Alors heureusement, un certain nombre de ces enfants sont parvenus à fuir le groupe État islamique et vous êtes allé précisément à leur rencontre, Alice, dans deux camps de réfugiés installés au Kurdistan irakien dans le nord du pays. Et là, vous avez croisé des enfants qui, tant bien que mal, tentent de se reconstruire.
Oui, nous voici à Dakar, à la frontière avec la Turquie, dans le cabinet de Myrna, psychologue de l'ONG française Elis Kerr. Assis face à elle, un feutre à la main, Saher dessine une maison.
Il y a combien de chambres dans ta maison ?
4. Dessine, Saher dessine pour évacuer, oublier qu'à 6 ans, lui, jeune yézidi de Sinjar, est devenu avec ses frères et sœurs esclave d'Abu Muammar à Deir ez-Zor en Syrie.
Il te frappait ?
Oui, il avait une grosse bague et il tapait sur ma tête. Le petit garçon frêle, les cheveux noirs de jais, le regard fixé sur ses chaussures, hésite. Puis les mots se bousculent dans sa bouche.
Il me frappait beaucoup, tous les jours. Il nous obligeait à lire le Coran. Il me frappait, puis il frappait ma mère aussi. Une fois, il a même cassé le bras de ma sœur Aziza. Elle est encore chez lui à Raqqa.
Et la petite fille n'a pas pu fuir avec le reste de sa famille.
Et des jeunes garçons hein, comme Saher, Myrna, la psychologue, en voit ici tous les jours. Écoutez.
Il y a des enfants choqués qui ne parlent pas. C'est à nous de les amener à s'exprimer. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont l'air d'aller bien, mais ce n'est pas le cas, on le sait. Ces enfants sont souvent victimes de chocs post-traumatiques.
Les symptômes, des cauchemars, des pipis au lit, une violence sur l'entourage, une schizophrénie aussi. Saher, lui, a besoin de parler, tout comme Assi, son grand frère, embrigadé par Daesh à 14 ans, 6 mois d'apprentissage théorique puis d'entraînement militaire avant d'être adoubé djihadiste. Ses cours, il les suit avec des centaines d'autres adolescents au nord de la Syrie, à une cadence infernale.
On se réveille tous les jours à 5 heures et on lit le Coran, puis on doit apprendre une sourate par cœur et la réciter au moment de la prière. Après, c'est la leçon de doctrine, puis on petit déjeune.
Et ainsi de suite jusqu'au soir. La moindre faute entraîne des coups de bâton et de tuyaux. 6 mois après sa libération, le dos d'Assi est encore traversé par de longues cicatrices.
Il ne parle que du djihad, des combats, de la guerre et te pousse à oublier ta famille. Tu passes ta journée dans la guerre, il n'y a pas de vie là-bas. Si tu restes avec eux, tu deviens un mort-vivant.
Et pour convaincre ces lionceaux du califat, comme ils les appellent, à sacrifier leur vie à leur cause, les djihadistes opèrent un lavage de cerveau quotidien.
Il nous disait par exemple, le djihad c'est pour Allah, vous les jeunes, allez dans l'autre vie, vous trouverez votre bonheur. Vous n'êtes pas mariés, là-bas 72 vierges vous attendent. Juste après, 15 jeunes se portaient volontaires.
Félicitations, cette nuit, ce héros, Inch'Allah, sera marié au paradis avec de jolies vierges.
Comme vous l'entendez dans cette vidéo, un discours qui fonctionne bien, très bien, notamment sur les âmes les plus fragiles.
Voilà, entraînement militaire particulièrement difficile, lavage de cerveau, entraînement éprouvant, on le comprend, mais qui diffère à Alice en fonction des zones géographiques. Adèle, par exemple, que vous avez rencontré, lui, a suivi un entraînement encore plus violent à Tal Afar, à l'ouest de Mossoul.
Et on rencontre ce garçon frêle au camp d'Essian, où il a trouvé refuge. On le découvre recroquevillé sur un matelas sous sa tente. Adèle nous regarde sans nous voir, ses mains se crispent quand il évoque à nouveau ses souvenirs dans ce camp d'entraînement. Il avait alors 10 ans.
On s'entraînait aux techniques militaires, comment attaquer, se cacher, s'allonger par terre, utiliser une kalachnikov, arrêter l'ennemi comme si c'était des peshmerga.
Et ceux qui n'y arrivaient pas,
ils les tuaient comme Kassim, ils les emmenaient à l'écart ou les abattaient sous nos yeux d'une balle dans la tête. J'en ai vu une dizaine.
Adèle devait aussi regarder des vidéos en boucle, autre arme de propagande de l'État islamique.
On voyait comment ils tuaient les yézidis et les non-yézidis. Ils nous disaient, vous devez vous entraîner comme nous pour combattre les peshmerga. Vous devez vous aussi les décapiter.
Un entraînement en grandeur nature, parfois sur des prisonniers yézidis. Les jeunes bourreaux sont alors tirés au sort.
Moi, je n'ai jamais été désigné, mais j'ai des copains qui l'ont été et qui ont abattu des prisonniers d'un coup de pistolet ou de kalachnikov.
Aujourd'hui, Adèle va mal, de plus en plus mal. Il fait des cauchemars la nuit, il a peur, il mange difficilement, nous confie son père, désemparé. Depuis qu'il s'est enfui de cet enfer, il y a un an, il n'a pas vu un seul psychologue, quasiment inexistant dans les camps. L'Irak est aujourd'hui trop accaparé par sa reconstruction pour panser les plaies d'une génération qui semble perdue.
Voilà, édifiant reportage signé Alice Serrano de retour du Kurdistan irakien. Merci infiniment Alice.
18h44, on continue d'évoquer, Michael, le sort des réfugiés avec cette nouvelle mobilisation du GISTI.
Le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, déjà plus de 40 ans d'existence, de militantisme, d'action, d'explication, avec toujours cette même volonté d'être aux côtés des exilés, des sans-papiers, de toute personne immigrée, combat pour l'égalité des droits des étrangers, et avec toujours cette certitude, Nicolas, que la liberté de circulation reste la seule alternative réaliste pour mettre fin à des situations souvent dramatiques. Et c'est ce principe fondateur que le GISTI va donc rappeler lundi prochain, le 5 juin. Ce sera lors d'un grand concert au Trianon, boulevard de Rochechouart à Paris. Très belle affiche, je vous la donne en bref. Arthur Ashe, Gaël Faye, Bibi Tanga, Patrick Chamoiseau ou les Tetraeds. Ils ont tous répondu présents et pour une simple raison, l'urgence à agir pour ces centaines de milliers de réfugiés bloqués au seuil de l'Europe. Car passé la grande prise de conscience internationale de septembre 2015, eh bien plus rien ou presque, et même au contraire, on l'a vu ici même, une Europe qui se barricade, qui se ferme, inadmissible pour la présidente d'honneur du GISTI, Danielle Lechec.
Ça fait quand même extrêmement longtemps que les choses durent, et c'est vrai que ces derniers temps, depuis 2 ans disons, avec ce qu'on a appelé la crise migratoire, tout d'un coup il y a eu une prise de conscience de ce que la politique de fermeture des frontières oblige tous les migrants, qu'il fuit la misère, qu'il fuit la guerre, qu'il fuit la dictature, oblige tous les migrants à prendre des risques toujours plus grands pour arriver et trouver refuge en Europe. Et malgré cette prise de conscience à la fois médiatique et politique, les réponses de l'Europe et donc des pays européens restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a bien vu il y a 2 ans, quand tout d'un coup il y a eu un afflux important, une prise de conscience, une montée médiatique, des morts et des naufrages, qu'est-ce qu'ont fait les pays européens? C'est d'abord de dire on va renforcer les moyens de Frontex. Frontex qui est cette agence dont l'objet est d'intercepter, d'interdire, les traversées, etc. Donc renforcer les moyens de Frontex, ça veut dire obliger les gens à trouver des itinéraires différents et qui sont toujours aussi risqués. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est ce fameux accord assez honteux avec la Turquie, qui pour l'instant a marché entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire à marcher? Ça veut dire que pour l'instant, la Turquie retient les Syriens, notamment, et quelques autres nationalités.
Pourquoi honteux? Expliquez-nous.
Honteux parce que traiter avec la Turquie aujourd'hui, c'est quand même traiter avec des dictatures et compter sur des pays dictatoriaux pour faire la police pour le compte de l'Europe, mais il y a eu des choses encore plus honteuses. Je veux dire qu'on a aussi traité avec Kadhafi, parce que on veut qu'ils tarissent les flux migratoires. Et tarir les flux migratoires, ça veut dire qu'ils empêchent les gens de sortir, de partir de chez eux, et ça veut dire aussi que nous renonçons complètement à la protection des réfugiés, d'abord parce que nous n'en voulons pas chez nous, et parce que là où on les laisse, ils ne seront pas bien protégés. Je ne parle même pas de ce qui se passe en Libye et qui est apocalyptique.
Oui, apocalyptique, on l'a vu ici même avec nos envoyés spéciaux. Alors la faute à qui? Eh bien d'abord aux responsables politiques européens.
la responsabilité des hommes politiques, de la classe politique est importante parce qu'il y a un espèce de cercle vicieux. La classe politique a un discours qui dit qu'il y a un risque alors économique, un risque pour la sécurité, on connaît tout ça, un risque aujourd'hui pour l'identité. Et pour le faire, il s'appuie sur ce que pense théoriquement l'opinion. Mais on voit bien comment ici un cercle vicieux se met en marche, parce que, à force d'entendre ce discours, l'opinion, elle est aussi confortée dans cette idée. Et on l'a bien vu, au moment où Angela Merkel a dit « nous allons les recevoir », il y a eu un élan en Allemagne assez intéressant. Et c'est vrai que si les autres pays avaient le moins du monde suivi, Angela Merkel n'aurait sans doute pas été obligée de faire marche arrière comme elle l'a fait.
Et on sait effectivement à quel point l'exemple allemand a peu convaincu le reste de l'Europe, d'où la nécessité bien sûr pour Daniel Lechac de marteler aujourd'hui encore cette indispensable liberté de circulation.
Notre analyse, c'est que d'abord d'un point de vue éthique, on ne peut pas se satisfaire d'une liberté de circulation qui est réservée à ceux qui ont la chance d'être nés dans un pays préservé de la misère et de la terreur. Parce que c'est vrai que là, une bonne partie du monde voyage librement. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de cette politique qui assigne à résidence ceux qui n'ont pas cette chance et qui en plus, évidemment, est responsable de milliers de morts. Mais en même temps, nous avons un discours, non pas de réal politique, mais un discours réaliste. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que cette politique, elle est vouée à l'échec. D'ailleurs, on le voit bien, les gens, ils arrivent quand même avec des catastrophes humanitaires une fois qu'ils sont là et qu'il n'y a aucune solidarité entre les États européens pour que ça aille mieux. Donc c'est une politique qui est vouée à l'échec et par conséquent l'idée que le Gisti défend, mais aujourd'hui nous ne sommes plus seuls du tout à défendre cette idée, c'est qu'au lieu d'avoir une politique fondée sur la fermeture des frontières, il faut avoir une politique fondée sur le principe de la liberté de circulation et s'interroger sur la façon dont on peut accueillir.
La présidente d'honneur du Gisti, Danielle Lechac, et donc je vous rappelle un grand concert en faveur de cette liberté de circulation, c'est lundi prochain au Trianon à Paris, à partir de 17h, et toutes les infos pratiques, évidemment, sur franceinter.fr.
Merci Mickaël Thébault.